Eh bien, Jésus, merci pour cette bonne soirée, pour cette étude de ce soir. Je te prie que tu nous aides à vraiment bien comprendre et que nous n'ayons pas un esprit de jugement, mais que nous soyons ouverts à ton esprit, à l'enseignement, pour bien comprendre là où nous en sommes, chacun d'entre nous. Merci, Jésus. Amen. Alors, on va faire une lecture dans 1 Corinthiens 15, 40-42. J'ai déjà enseigné un peu ces choses, mais je vais y revenir plus profondément. 1 Corinthiens 15, 40-42. Alors, il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Et là, il explique comment on ressuscite avec un autre corps, mais qu'il y a des divers degrés. Je vous ai parlé de ça déjà depuis des années, les trois niveaux de gloire que les enfants de Dieu hériteront. Et les enfants de Dieu, il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, beaucoup plus qu'on ne pense. En effet, certains donc auront une gloire comme l'éclat du soleil, d'autres comme l'éclat de la lune, d'autres enfin comme l'éclat des étoiles qui diffèrent, chaque étoile est différente. Et quand on lit dans le livre de Mormon Doctrine et Alliance 76, je vous recommande de le lire. On ne va pas le lire ce soir parce que c'est assez long, mais lisez-le chez vous. Vous pourrez savoir, n'importe qui peut savoir, grâce à ce qui est écrit là, grâce à cette révélation, quel sera son lot et quel sera son état. Comment est-ce possible? C'est simple, parce que chaque personne sait dans son cœur quelle loi il respecte et les lois que nous respectons ici-bas décideront de la place que nous aurons dans l'au-delà. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ce chapitre-là, la section, ils appellent ça section 76 dans Doctrine et Alliance, est appelée vision. Il y a plusieurs visions parce qu'il y a la vision d'abord de la gloire du Fils, du verset 20 à 24. Ensuite, vous verrez la vision de la chute de l'adversaire, parce qu'on dit toujours Satan, mais Satan, ce n'est pas son nom, c'est un qualificatif. Hein. C'est l'adversaire. Et ensuite, vous allez voir la vision des souffrances de ceux qui le suivent. Ceux qui le suivent sont des fils de la perdition. Et ça, vous trouvez au verset 25 à 49, et c'est très bien décrit. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. La vision de ceux qui hériteront la gloire terrestre, verset 50 à 70. La vision de ceux qui hériteront la gloire terrestre, verset 71 à 80. Et une vision de ceux qui hériteront de la gloire semblable à l'éclat des étoiles, versets 81 à 89, et on parlera de tout ça après. Mais ce soir, on va d'abord parler des fils de la perdition. Ensuite, vous avez une comparaison des trois degrés de gloire, toujours dans cette section 76. Cette section 76, elle commence donc par affirmer haut et clair la puissance, la gloire et la majesté de Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui a le pouvoir de sauver. C'est que par Jésus-Christ. Personne ne peut arrêter sa main. Personne ne peut l'empêcher d'accomplir son œuvre. Même si le diable semble arrêter l'œuvre de Dieu, ce n'est pas vrai, il ne l'arrête pas. Le diable fait une œuvre qui le trompe. En fait, tout ça fait partie du plan de Dieu. D'accord ? Donc il ne faut pas être attristé parce que quelqu'un fiche en l'air l'œuvre que vous êtes en train de faire. Ça n'a aucune importance aux yeux de Dieu, parce que en fait, c'est dans son plan. C'est dans son plan. Le livre de Mormon, ce n'est pas un autre évangile, pas du tout. C'est un autre témoignage de Jésus-Christ. Il n'annonce pas une nouvelle différente. Évangile signifie bonne nouvelle. Il n'annonce pas une bonne nouvelle différente de la bonne nouvelle qu'on trouve dans la Sainte Bible. Je peux vous en parler parce que je l'ai lu et je le lis tous les jours et je le relis. Je sais de quoi je parle. Par contre, il est clair des textes sacrés qui ne sont pas bien compris dans les églises apostates. Alors, tout le monde se réclame de la Bible dans toutes les dénominations chrétiennes, mais ils se contredisent tous avec pourtant les mêmes textes. Par exemple, le livre de Mormon nous révèle que la juridiction et le pouvoir de notre Seigneur Jésus-Christ s'étendent loin au-delà des limites de l'univers que notre petite Terre occupe. Les scientifiques sont très avides de savoir s'il y a des planètes qui sont habitées. Eh bien voilà, vous avez des réponses dans le livre de Mormon. Sous la direction du Père, Jésus-Christ est le créateur de mondes innombrables. Déjà, la Bible nous enseigne qu'il y a au moins deux mondes. Jean 8, 23. Encore fallait-il y penser que la Bible nous parle de deux mondes. Quand Jésus dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il dit, moi, je ne suis pas de ce monde. Il est de quel monde? Hein? Voilà, ben voilà. Mais la Bible est, le livre de Mormon nous parle de ce monde-ci et du salut pour ce monde, même pour toute la création, qui soupire après la révélation, l'avènement des fils de Dieu que nous sommes. Alors, plutôt que de d'occuper notre curiosité à chercher quels sont les autres mondes, où est-ce qu'ils se trouvent, et dépenser un argent fou là-dessus, je dis qu'il est primordial de bien connaître le nôtre, notre monde, et puis de savoir quel est le plan parfait pour du salut pour notre monde. La révélation a été donnée aux apôtres que Jésus-Christ est allé prêcher dans le séjour des morts. C'est écrit dans la Bible, mais déjà là, les évangéliques ne veulent pas le croire. Et pourtant, ça concerne bel et bien notre monde. Mais bon, ils ne veulent pas le savoir. Nous savons qu'il y a trois principes, il y a trois forces, il y a trois puissances indépendantes ici-bas. Il y a la puissance de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit de l'homme et il y a l'Esprit du diable, avec toutes sortes de démons. Mais quand on dit qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a aussi toutes sortes d'anges, il y a toute une hiérarchie angélique. Un jour, je vous prêcherai là-dessus. C'est Charef qui m'a demandé, est-ce que tu as déjà prêché sur les anges? Alors moi, je dis des petites choses, mais je n'ai jamais vraiment enseigné à fond là-dessus. Enfin, du moins de ce que je sais. Nous savons que notre Père Céleste nous a envoyé ici-bas, dans ce monde-ci, pour que nous obtenions de l'expérience et de l'influence de ces trois esprits. Il nous a donné pour ça la connaissance du bien et du mal. Il a permis que nous puissions l'avoir. Dans son plan du salut, il a permis que nous ayons le pouvoir de discerner entre le bien et le mal. Il voulait nous donner ce pouvoir, mais nous, on l'a volé. Mais tout ça, ça faisait partie du plan de Dieu. Et il l'a voulu, et nous avons maintenant le pouvoir de discerner entre le bien et le mal, afin que nous apprenions à fermer notre cœur au mal, qu'on le ferme, clair, net. Bon, il est vrai que certaines personnes ont une plus grande résistance que d'autres, mais chacun a le pouvoir de fermer son cœur au doute, aux ténèbres, à l'incrédulité, à la dépression, à la colère, à la haine, à la jalousie, à la méchanceté, à l'envie et à toutes ces choses mauvaises, etc. Dieu nous a donné ce pouvoir à tous. Il nous a donné ce pouvoir. Et nous pouvons obtenir un pouvoir encore plus grand que celui que nous avons en lui demandant ce qui nous manque. Il dit « Je vous donnerai sans faire de reproche ». Vous voyez qu'on n'a aucune excuse. On n'a aucune excuse. Alors, mes frères et sœurs, si ce n'était pas ainsi, comment pourrions-nous être condamnés pour avoir cédé à une mauvaise influence? Il ne pourrait pas y avoir de condamnation pour avoir fait ce que nous ne pouvions pas nous empêcher de faire. Dieu serait injuste si c'était ça. Mais nous pouvons nous empêcher de céder aux mauvaises influences, qu'elles soient humaines ou démoniaques. Nous le pouvons. Nous pouvons nous empêcher de céder à l'esprit de vol, à l'esprit de convoitise, etc., etc., etc. Dieu nous a donné le pouvoir de résister à cela. Il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais il faut résister, c'est à nous de résister. Ne demandez pas à Dieu de vous donner la force. Il vous l'a déjà donné, maintenant vous pouvez demander de la sagesse, vous pouvez demander d'être renouvelé, etc., etc. Mais si vous voulez céder, vous allez céder. Si vous ne voulez pas céder, vous ne céderez pas au diable. Il ne faut pas me raconter des histoires. Ou alors la Bible ment et c'est vous qui avez raison. Non, vous n'avez pas raison, vous avez tort. même si vous semblez avoir raison, vous avez tort. Moi, je crois la parole de Dieu, je crois plus la Bible que vous. Hein, c'est comme ça. Alors, il nous a donné ce pouvoir afin que nos cœurs ne soient pas affectés par ceci ou par cela, par le doute. Et quand le diable vient pour vous assaillir, vous avez le droit légal de lui dire, comme Jésus a dit, « Arrière de moi, Satan, arrière de moi, il n'y a rien de toi en moi, il n'y a ni part ni lot en toi, je n'ai ni lot ni part en toi, tu n'as aucune part en moi, je suis un serviteur de Dieu, tu n'as pas le droit de faire ce que tu fais, tu le sais, tu ne peux pas faire ce que tu veux, il est inutile de te présenter avec tes tentations, tu viens pour essayer d'inspirer à mon cœur des pensées mauvaises concernant les serviteurs de Dieu, concernant l'œuvre de Dieu, eh bien, je ne veux pas t'écouter, je te ferme mon cœur au nom de Jésus-Christ. » Il faut être ferme. Il faut être ferme. Comment ça se passe en général? Comment est-ce que le diable vient pour discréditer les serviteurs de Dieu? Ça se passe très généralement entre deux portes, deux bonnes femmes qui discutent. Et tatati, tatata, puis on écoute, on dit, ah bon, oh, hein. Et puis c'est des semences diaboliques, charnelles au départ, mais ça devient diabolique parce qu'on donne accès, vous voyez, on donne accès, on dit, ah oh, ouais, quand même, ah, mais je ne savais pas, mais quelle horreur et tout, voilà. Vous savez, ce n'est pas compliqué. Lorsque les ténèbres nous remplissent le cœur, nous savons que c'est les ténèbres, nous savons très bien que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui est en train de nous posséder là. Parce que nous sommes mal. Quand l'esprit des ténèbres nous remplit, on ne sent pas bien. Et nous devons nous débarrasser, nous pouvons nous débarrasser de cet esprit de ténèbres. On peut le faire. Et on doit le faire. Si on est un enfant de Dieu, on le fait. On peut des fois glisser, tomber, chef, j'ai glissé. Mais Dieu nous donne la possibilité de se repentir. D'accord ? Et nous sommes remplis de joie, de paix, de bonheur, quelles que soient les circonstances dans lesquelles on se trouve quand l'Esprit Saint nous remplit. Hein? C'est tout simple. Quand il y avait les ados qui sont maintenant des ados ou les adultes étaient des enfants, je leur disais toujours ça. Quand vous faites le mal, vous avez la tristesse dans le cœur. C'est comme ça. Et quand vous faites le bien, vous avez la joie dans le cœur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Ben, voilà. Ben, c'est toujours pareil pour nous. On le sait si c'est l'esprit du malin qui... On a quelque chose qui nous... On le discerne, on le sait. Il ne faut pas me raconter des histoires. Alors, la question est, comment est-ce que ça se passe dans le cœur des fils de la perdition? Comment ça se passe dans le cœur des fils de la perdition? Nous qui sommes enfants de Dieu, on a la peine à comprendre. Parce qu'aussitôt qu'on fait quelque chose qui n'est pas bien, qu'on cède à une tentation, on se repent, on est malheureux. Ils ont, eux, comme nous, la connaissance du bien et du mal, mais ils ne craignent pas de s'opposer au Saint-Esprit. C'est ça le problème. Ils connaissent le Saint-Esprit. Écoutez bien ce que je dis là. Tous les fils de perdition ont connu le Seigneur Jésus-Christ ici-bas. Les fils de perdition témoignent contre le Saint-Esprit et contre l'œuvre du Saint-Esprit. Et pour pouvoir le faire, ils ont dû connaître le Saint-Esprit, comme Caïn, comme Judas, qui sont nommés. La Bible nous dit qu'ils étaient fils de la perdition. Mais ils connaissaient Dieu, ils avaient parlé, Dieu s'était révélé. Regardez, quand Dieu parle à Caïn, il n'y avait personne qui savait plus que Caïn ce que Dieu avait dit à Caïn. Quand Dieu a parlé, c'était une révélation extraordinaire, il le savait. Mais il n'a pas voulu écouter. C'était au sujet de comment surmonter le mal qui se couche à ta porte. Et aujourd'hui, Dieu a envoyé des ministres, des serviteurs qui prêchent. Si tu n'écoutes pas les serviteurs de Dieu, tu n'écoutes pas Dieu. Celui qui ne vous reçoit pas ne me reçoit pas. C'est la même chose. Mais quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est normal qu'il n'écoute pas un serviteur de Dieu. Mais quelqu'un qui connaît Jésus et qui n'écoute pas un serviteur de Dieu, pourquoi il n'écoute pas? Pourquoi il n'écoute pas? Caïn a péché face à cette connaissance. Il était rempli de cette connaissance de ce que Dieu avait dit, et cela, c'est péché contre la plus grande lumière qui soit. Et par conséquent, c'est commettre le plus grand péché qui soit. On dirait, oui, mais Dieu avait parlé à Caïn, et puis Judas il a vu Jésus. Aujourd'hui, si j'ai un serviteur de Dieu, voilà, c'est pas pareil. Si, ben, écoutez, quelqu'un qui a écouté Jésus et qui a désobéi à Jésus, même ceux qui l'ont crucifié sont pardonnés. Mais quand c'est le ministère du Saint-Esprit au travers d'un serviteur de Dieu, pas de pardon. Donc c'est plus grave aujourd'hui que ça ne l'était quand Dieu parlait à Caïn dans le jardin ou quand Jésus parlait à Judas. Parce que maintenant, c'est le travail du Saint-Esprit. Il travaille avec ses serviteurs. Quand l'Esprit de Dieu parle à l'Esprit de l'homme, il a le pouvoir de communiquer la vérité avec plus d'effet et en donnant une meilleure compréhension que par le contact avec des anges ou avec le meilleur des prédicateurs. Le Saint-Esprit peut parler au travers d'un prédicateur qui parle mal le français, qui cabosse le français. Oui, Raphaël, il cabossait le français, mais il était rempli du Saint-Esprit. Quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit et qu'on refuse sa parole, on rejette Dieu, qu'on a connu, avec lequel on a eu un contact. Alors, que doit faire une personne pour commettre le péché impardonnable? Le péché qui mène à la mort, c'est ce que la Bible dit. Alors, un, il doit être en contact avec le Saint-Esprit. Il doit l'avoir reçu. Il faut que les cieux se soient ouverts à lui. Le Saint-Esprit s'adresse à tous, mais c'est seulement ceux qui le reçoivent, ceux qui croient, qui sont sauvés, pas les autres. Ils connaissent Dieu parce que Dieu leur parle. Et ensuite, ils pêchent contre lui. Et lorsqu'une personne a péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de repentance pour lui. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui provoque la repentance dans le cœur d'une personne. Et s'il a attristé le Saint-Esprit ne s'amuse pas à le convaincre de péché, il le laisse. C'est une personne qui voit le soleil briller et qui dit non, non, le soleil ne brille pas. Il nie le plan du salut, selon la Bible. Ah, mais moi je nie pas le plan du salut. Si tu nies le plan du salut pour les morts, tu nies le plan du salut parce que ça fait partie du plan du salut. Il nie l'œuvre de Dieu, ayant les yeux ouverts sur ce plan, écrit clairement, historique même. À partir de ce moment, il commence à être un ennemi. Je dis bien, il commence. En fait, ceux qui sont fils de la perdition ne peuvent être que des gens d'église. Ils ne sortent que de l'église. Ce n'est pas des païens. Ce n'est pas des païens. C'est des gens qui ont entendu, qui ont vécu la vérité et qui l'ont renié. Quand une personne commence à être l'ennemi de l'œuvre de Dieu, de ce que Dieu a fait, quand il commence à être l'ennemi de ce qu'il a vu que Dieu a fait, alors il ne se met pas à pourchasser Dieu, jamais. Les rabbins qui ont crucifié Jésus, ils n'en voulaient pas à Dieu, ils en voulaient à ce bonhomme dans la chair, là, à Jésus. C'est toujours pareil aujourd'hui, on s'attaque à ceux qui travaillent pour Dieu sur la terre dans un corps de chair. Voilà. À ce moment-là, ces personnes reçoivent l'esprit du diable, ce même esprit qui avait rempli le cœur de ceux qui ont crucifié le Seigneur de la vie. Et ça, c'est terrible. Mais avant d'en arriver là, ça n'arrive pas tout de suite. Ils ont quand même la possibilité en cours de route de se repentir. Mais il y a un moment où il n'y a plus de possibilité de se repentir. Personne arrive à ce point-là du jour au lendemain. Une personne se révèle comme ennemi de l'œuvre de Dieu, de ce qu'il a vu que Dieu a fait, parce qu'une forme de transgression s'est attardée dans son âme non repentante. C'est ça le problème. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit finisse par se retirer, parce que attristé. Alors, ils peuvent avoir l'air d'être des saints, mais ils renient ce qui fait la puissance, c'est-à-dire la puissance de l'amour, la puissance miracle, la puissance, toutes les puissances de Dieu. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un esprit de religion, un esprit de ténèbres religieux qui prend la place et qui emploie les mêmes mots que la Bible. Ils vont vous parler de sanctification comme personne, ils vont vous parler de... Ils sont extraordinaires, n'est-ce pas? les rabbins qui ont crucifié Jésus, c'est le sabbat, il faut se dépêcher. Ils ont allé au temple, ils ont loué le Seigneur, alléluia, gloire à Dieu, c'est la Pâque. Ils ont mangé l'agneau, ils ont fait toutes les cérémonies, ils ont fait tout ça. Ils étaient sûrs, n'est-ce pas? Ils sont très religieux, vous savez. Les fils de perdition sont très religieux. Vous savez, le péché engendre le péché. Et les ténèbres, on n'engendre pas, ça ne vient pas d'un coup. Même chez les animaux, ça ne vient pas d'un coup. Il y a un temps où ça se prépare. Et puis, il y a des fois, il y a un avortement, c'est-à-dire une repentance. La personne dit, non, je vais trop loin, ce n'est pas possible, je me repens. Non, ça ne va pas, je me repens. Là, c'est bon. Mais il y en a, ils continuent. Le péché engendre le péché. Et les ténèbres grandissent jusqu'à ce que l'amour de la vérité se transforme en haine. En haine. Et que l'amour de Dieu soit vaincu par le désir pervers de détruire tout ce qui est juste et tout ce qui est vrai. Au nom de la religion. Au nom de Jésus, ils font ça. Ah ben ça. Les rabbins ne faisaient pas au nom de Jésus, ils faisaient au nom de Yahvé. Mais maintenant, c'est au nom de Jésus, parce qu'il résiste au Saint-Esprit. Maintenant, c'est le ministère du Saint-Esprit dans les serviteurs de Dieu. Et alors, Jésus-Christ est exposé à une honte ouverte et blasphématoire. Ces personnes se mettent hors de portée de la puissance rédemptrice de Jésus. Je voudrais qu'on fasse une lecture dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 9. Hébreux 6, 4 à 9. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction, mais si elle produit des ronces et des chardons, et les juger sans valeur, bien prêtes d'être maudites, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre, le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom, par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints, voyez. Oui, nous, on a suffisamment donné, ça va. Hein? Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Il y a des gens qui ne reçoivent pas l'héritage promis. Pourquoi? Parce qu'ils abandonnent en cours de route. Ils arrêtent de bénir les saints, ils arrêtent. C'est fou quand même. Et puis il y a Matthieu 12, 6, 31. Je peux lire aussi. Matthieu 12, 6, 31. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est Matthieu 12, 31, 32. 12, 31, 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne leur sera pas pardonné. Celui qui parlera contre le Fils de l'homme, c'est-à-dire contre Jésus, cela lui sera pardonné, mais celui qui parlera contre le Saint-Esprit, le pardon ne lui sera accordé ni dans ce monde présent, ni dans le monde à venir. Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car c'est... On reconnaît l'arbre à son fruit, race de vipère, etc., etc., etc. Vous voyez, ceux qui ont parlé contre Jésus, qui l'ont crucifié, ils ont été pardonnés. Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, ceux qui sont dans la dispensation du Saint-Esprit, là c'était la dispensation du Fils, c'était Jésus sur terre qui parlait, mais depuis que c'est par le Saint-Esprit, ceux qui ont connu Jésus par le ministère d'envoyé de Dieu humain rempli du Saint-Esprit et qui se sont convertis, qui ont reçu leur Jésus comme leur sauveur et comme leur maître, puis qui ont rejeté les enseignants et les enseignements que donne le Saint-Esprit, en diabolisant ceux qui les avaient conduits au salut, ceux-là, oh mon Dieu, que Dieu ait pitié, si c'est possible, si c'est possible. Il faudrait qu'ils se repentent. Le problème, c'est que c'est le Saint-Esprit qui pousse à la repentance. Et s'ils ont offensé le Saint-Esprit, ils ne peuvent pas être remplis d'autre chose que d'esprits religieux qui imitent la vraie foi. C'est-à-dire qu'ils vont, avoir des imitations de repentance. Ils vont faire quelque chose qui n'est pas bien. Oh, « Seigneur, pardonne-moi, mon Dieu. » Et puis ils sont sûrs qu'ils sont repris par le Saint-Esprit. Non, c'est un esprit malin qui les manipule pour leur faire croire que le Saint-Esprit est toujours en eux. C'est un esprit de mensonge, un esprit religieux. Ils sont trompés, mais ils ont donné accès au diable. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, ce n'est pas vrai. Des années que ça traînait, que ça mûrissait, que ça venait. Ils imitent la vraie foi tout en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire l'esprit de vérité. De telles personnes ne peuvent pas avoir part à la miséricorde car elles ne peuvent pas se repentir vraiment sous l'action du Saint-Esprit. Elles se croient justes, mais elles ont perdu l'Esprit de Dieu. Elles vont dire « Je suis juste parce que Jésus m'a justifié, parce que Jésus a porté mon péché sur la croix. » Elles en sont persuadées, mais elles ont attristé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, moi je me rappelle toujours, c'est à l'école biblique quelqu'un qui avait dit « Quand Saint-Esprit est représenté par une colombe, vous savez pourquoi ? Parce que la colombe n'a pas de bile, c'est-à-dire elle n'a pas d'amertume. Quand ça ne va pas, ben, elle se retire. » Vous entendez juste, c'est tout. Elle ne fait pas, ouais, qu'est-ce qui se passe, c'est tout. Il n'y a pas de scandale, sortir, c'est tout. Le Saint-Esprit se retire, et puis ils s'en aperçoivent même pas. Et c'est un autre esprit qui se glisse, un esprit religieux. Seules cette sorte de personnes-là seront perdues. Personne d'autre ne sera perdu. Les autres vivront dans des degrés, dans trois degrés de gloire dont Paul parle. Et on verra ça une prochaine fois, je vous en parlerai. Beaucoup n'entendront jamais parler de Jésus sur cette terre, mais seront sauvés quand même parce qu'ils entendront dans le séjour des morts. Et dans Doctrine et Alliance 76, vous trouverez encore beaucoup, beaucoup de réponses. Vous voyez ceux qui taxaient Noé d'impie. Pourquoi est-ce qu'il disait qu'il était fou ? Pourquoi est-ce qu'il dit ? Parce que c'était à cause de son œuvre. C'était son œuvre qu'il n'aimait pas. Parce que son œuvre les accusait. Pourquoi est-ce qu'ils n'aimaient pas Jésus ? C'est que du bien. Mais c'est justement parce que ça les accusait. Eux, ils ne faisaient pas le dixième de ce que Jésus faisait. Ils auraient dû, ils auraient pu, s'ils avaient eu la foi. Les miracles, ça n'était pas de Jésus. Des miracles, il y en avait fait, d'autres en faisaient avant Jésus. Eux, là, les pharisiens, ils faisaient quoi comme miracle ? Rien du tout. Donc quand ils voyaient toute cette flopée de miracles que Jésus faisait, ça les accusait. En plus, cette bonté, cette gentillesse, tout ça, ça les accusait, ça les rendait malades. Alors ils s'opposent à la vie en ayant pourtant une apparence religieuse. Ils se sont imprégnés de l'esprit de Satan, qui est l'esprit de perdition qui s'oppose à la vie. Satan ne veut pas être tout seul à être jeté dans les temps de feu. Il va en emporter le plus grand nombre, mais il ne pourra emporter que les fils de la perdition, les fils de Caïn, les fils du serpent. Ces gens-là, ils défient l'auteur du salut en reniant ce qui est donné aujourd'hui. Ce qui était donné au temps des luthériens, c'était différent, mais aujourd'hui, Élie est venu, et le ministère qui permet que la terre entière ne soit pas maudite, c'est le ministère qui était rétabli pour le baptême pour les morts. Ce qui fait que on peut participer au rachat des morts en se faisant baptiser à leur place. C'est ce qui fait que des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de personnes pourront être sauvées. Ils renient, ils défient l'auteur de ce salut. Et ils vont même maintenant, j'ai entendu dire ça, défier l'auteur du salut, reléguant le corps et le sang de Jésus à un simple symbole inutile à consommer. Ça veut dire quoi? Jésus dit, or celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie. Et il dit, ça ne sert à rien de prendre le pain et le vin. C'est un symbole, ça ne sert à rien. Nous, on sait qu'on a la vie, on n'a pas besoin de ce symbole. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés. Ils nient l'alliance nouvelle, la qualifiant d'inutile ou de secondaire. L'alliance, elle est faite en son sang et on prend ce pain et ce vin qui sont le symbole de cette alliance. Et Jésus a dit qu'il fallait qu'on le fasse quand on est ensemble. Et eux disent, non, non, mais c'est incroyable. Comment est-ce que c'est possible de tomber si bas? Ils se croient être chrétiens, très chrétiens, parce qu'ils ont une Bible, parce qu'ils passent des heures à la lire, parce qu'ils en témoignent, parce qu'ils prêchent, parce que... Mais ils ne savent même pas que leur Bible est une compilation de livres saints qui existent par la volonté d'une bande d'impies. Renseignez-vous, comment est-ce que la Bible, comment est-ce que cette compilation de livres a été faite et par qui ça a été fait? Ces mêmes impies qui ont compilé les livres que vous avez dans la Bible, ces mêmes impies ont rejeté d'autres textes qui ne les arrangeaient pas. Je les ai là devant moi. Ils sont tous là. On peut les avoir. Ceux qui ne savent pas, c'est parce qu'ils ne veulent pas savoir. Leur ignorance est coupable. Aujourd'hui, Dieu restaure tout. Tout est là. Énorme. Énorme. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à ces textes sacrés que l'Église catholique a cachés. Par dedans, il y a des bouquins qui ne valent pas deux balles. Mais le Saint-Esprit est capable de vous montrer où est la vérité. Ils ne savent pas, ils n'ont pas accès à ces livres, ils ne savent pas que quand Jésus est sorti du tombeau, les soldats romains et les anciens, parmi les juifs, il y avait des anciens qui étaient là, qui étaient présents. Les évangiles ne nous disent pas ça, mais les évangiles, si vous prenez les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, il n'y en a aucun qui raconte la crucifixion, la mise au tombeau et la résurrection de la même manière. Par contre, si vous prenez l'évangile de Pierre, qui a été rejeté par ceux qui ont compilé la Bible, celle que vous avez, dans l'évangile de Pierre, il est dit que les Romains et les anciens, les Juifs, les religieux qui étaient là, ils ont vu quand Jésus est sorti du tombeau, ils ont vu, ils étaient là, et ils ont entendu une voix venant du ciel, « As-tu prêché à ceux qui dorment ?» C'est-à-dire à ceux qui sont morts. Et une voix est sortie de la croix, ce qui n'était pas bien loin, et ils entendirent une voix qui dit « Oui ». Le plan était complètement, totalement accompli. Les portes étaient toutes ouvertes. Les clés du ministère pour le salut étaient ouvertes. Et c'est pourquoi les apôtres ont commencé à se faire baptiser à la place de leur mort, puisque on ne peut pas être sauvé qu'en croyant, encore il faut être baptisé. Celui qui croira qu'il sera baptisé sera sauvé. Il nie que le plan du salut s'étend aussi aux morts, c'est-à-dire il nie le plan du salut pour la grande majorité des humains de cette terre. Il croit au plan du salut pour quelques centaines de milliers de personnes en France et il pense que c'est ça la gloire de Dieu. Mais voici, dans les derniers temps, je vous enverrai Élie, et lui, il permettra que le cœur des pères se rapproche des enfants, le cœur des enfants des pères, c'est-à-dire que on s'occupe de nos ancêtres, de ceux qui sont décédés, afin de participer, comme on le peut, à leur salut, en se faisant baptiser ici-bas sur terre, à leur place, parce qu'eux n'ont pas de corps pour se faire baptiser. Et c'est ce que les premiers chrétiens faisaient, jusqu'au IVe siècle. Et l'Église catholique l'a interdit. Ensuite, ils ont choisi de rejeter tous ces livres qu'ils appellent apocryphes, comme si c'était un gros mot, apocryphe. Ça veut dire simplement tenu caché. Apocryphe, ça signifie tenu caché. Ils ont tenu ça caché, mais maintenant, tout est rétabli et ces choses reviennent à la lumière. Vous allez dans une bonne librairie et vous commandez, il y a deux tomes, les écrits apocryphes chrétiens, c'est des milliers de pages. Et vous aurez de quoi lire, vous aurez de quoi apprendre, vous verrez ce que ces chers impies de Constantin, de je ne sais qui là, ces pères de l'Église, ce qu'ils ont fait. Ils ont rejeté des trésors, des trésors. Et c'est à cause de ça. C'est pas que la Bible est tronquée, c'est que ils ont tronqué, ils ont enlevé des livres qui devaient y être par leur pouvoir démoniaque et charnel. Ils ne peuvent donc pas croire dans ces textes sacrés que les catholiques ont tenu cachés pendant deux millénaires, puisqu'ils sont cachés. Mais maintenant, ils sont de nouveau à la lumière. Je disais ça à quelques frères, je crois que c'était hier midi, ou ce midi, je ne sais plus, et ils m'ont dit « Ah bon, mais où est-ce qu'il est cet évangile de Pierre ?» Je dis « Mais ça fait 10 ans que je l'ai dans mon bureau. » Mais quand j'ai vu comment la plupart réagissaient quand j'ai commencé à en parler et que ça grimpait les rideaux en criant « Au secours !» J'ai complètement tout de suite arrêté d'en parler. Maintenant, vous ne me ferez plus taire. Maintenant, vous ne me ferez plus taire. J'en parle, je le prêche, je le dis, je dénonce l'Église apostate et je dis la vérité. Et si ça ne vous plaît pas, vous fermez votre ordinateur, vous allez écouter plouf-plouf machin, le pasteur truc qui vous dira des âneries, qui vous prêchera sur la mer calmée 10 fois dans le mois. Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi, vous ne m'empêcherez plus de parler. Maintenant, c'est fini. Je parle, je dis. Et ceux qui veulent écouter, ben qu'ils écoutent. Et ceux qui veulent pratiquer, ben qu'ils pratiquent. Montrez ce que vous avez dans le cœur. Mes frères et sœurs, et louons le Seigneur de ce qu'il nous a choisi pour entrer dans son alliance parfaite. Parfaite parce que rétablie. Elle a toujours été parfaite, mais elle était inconnue de la plupart. Maintenant, elle est de plus en plus connue. Vous vous rendez compte, Dieu permet. C'est à ce point même qu'en France, pauvre pays païen, pauvre pays laïque s'il en est, Dieu a permis qu'en France, on puisse trouver des Bibles dans toutes les librairies pour 1 euro. Est-ce que vous imaginez combien ça pouvait coûter au Moyen-Âge de posséder une Bible? Maintenant, pour 1 euro, ben, ils n'achètent même pas. Et puis les chrétiens non plus, ils pourraient en acheter 10, une vingtaine par mois, puis les distribuer. Ils n'y pensent même pas. Ils n'y pensent pas. Ah bon? Ouais. Ben voilà. Quand on a le Saint-Esprit en soi, on est des témoins. On a envie de témoigner. Ça nous brûle. On est poussé à témoigner. C'est le Saint-Esprit qui fait ça dans nos cœurs. Bon, voilà. Faites ce que je vous dis ce que vous voulez, mais louez le Seigneur de ce qu'il vous a choisi pour entrer dans son alliance parfaite parce que rétabli. Et laissons les fils de perdition suivre leur voie d'après le choix qu'ils ont fait. Et s'il y en a qui peuvent encore se repentir parce qu'ils n'en sont qu'au commencement de leur rébellion, bien qu'ils se repentent. Mais surtout, mes frères et sœurs, quoi qu'il vous arrive, ne vous considérez jamais comme les victimes du diable. Tout ce qui vous arrive est permis par Dieu. Voyez, regardez par exemple ce qui se passe en Syrie avec nos pauvres frères là-bas qui sont massacrés, tués par ces musulmans fanatiques. Vous allez me dire, mais c'est permis par Dieu? Ben oui. Ah bon, mais Michel, c'est monstrueux? Ben oui. Mais savez-vous que témoin et martyr, c'est le même mot? Voyez, c'est une religion comme ça, la religion de Jésus. C'est une religion comme ça. Jésus a été rejeté, c'est normal qu'on soit rejeté. Il a été diabolisé, c'est normal qu'on soit diabolisé. Si on ne l'était pas, ça serait inquiétant. Le péché règne par la mort et la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Sauveur, Romains 5, 21. Amen. Jésus, merci de nous avoir éclairé encore ce soir sur ces choses. Merci de nous avoir montré que ton salut est immensément plus grand et ta bonté immensément plus grande que ce que nous avons appris sur les bancs d'église. Merci Jésus pour ce salut merveilleux que tu veux accorder encore à tous ceux qui n'ont pas entendu sur cette terre. Merci Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni mon Dieu. Éclaire chacun et chacune. Amen. Je lisais aussi dans le livre de Mormon que une personne qui a entendu parler de Jésus, c'est un prophète de Jésus qui parlait, qui disait, j'ai connu un vieux monsieur qui était un ivrogne, qui avait toujours la cigarette au bec et qui jurait. Sa femme était une chrétienne. Et un jour, sa femme lui donnait toujours témoignage petit à petit. Elle essayait de vivre le plus près possible de Jésus dans cette ambiance épouvantable. Mais un jour, elle lui dit, ma chérie, quand même, tu sais que ce que je crois, c'est vrai. Pourquoi tu ne viens pas te faire baptiser? Pourquoi tu ne viens pas? Et son mari lui a répondu, mais bien sûr que je sais que c'est vrai. Mais de toute façon, quand je mourrai, je sais que la première chose que tu feras, tu iras au temple pour te faire baptiser à ma place. Alors, j'ai aucun souci. Et le serviteur de Dieu a dit, le baptême pour les morts, ce n'est pas une seconde chance. Ça n'est pas réservé à cette sorte de personnes-là. C'est pour ceux qui n'ont jamais entendu proprement l'évangile prêché. Si vous l'avez entendu, ne comptez pas l'entendre dans le séjour des morts. Ça, je trouve que c'est vrai. Ça sonne juste. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est merveilleux. Voilà, Dieu est un Dieu juste. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Et Dieu a envoyé Élie dans notre fin des temps afin que la terre ne soit pas maudite entièrement. Elle le serait s'il n'y avait pas ce ministère que nous pouvons accomplir pour les morts. Parce que la plus grande majorité des gens n'ont pas entendu au travers des siècles l'évangile de Jésus-Christ. Cet après-midi, j'ai regardé le dernier épisode du film Brésil Rouge. Quand je vois ces catholiques et ces protestants qui sont arrivés là-bas, au Brésil, pour soi-disant évangéliser, Calvin et compagnie, là, les calvinistes, et tout. Mais ils n'ont pas évangélisé, ces gens-là. C'était des monstres sanguinaires, c'était épouvantable. Ces pauvres Indiens, ils ont été mis en contact avec, soi-disant, l'Église de Jésus-Christ au travers. C'était des monstres. Alors, voyez-vous, il y a beaucoup de gens comme ça. Mon pauvre père, qui était élevé... Il était placé parce que la famille était bizarre. C'est l'équivalent de la DAS, mais c'est en Suisse, ça s'appelle autrement. Ils ont placé mon père, quand il avait 4 ans, dans une famille de pasteurs. Et l'homme prêchait très bien. C'était une merveille à l'église. Mais à la maison, il était tout le temps bourré. Il battait sa femme, il battait les enfants et tout. Mon père a été bloqué. Il ne pouvait pas croire dans la sincérité des membres du clergé. Il n'y en avait qu'un seul qui l'aimait bien, c'était Maurice Ray. Il aimait bien écouter Maurice Ray à la radio. Maurice Ray, c'est un pasteur, on l'appelait le Billy Graham de la Suisse. Il a écrit des livres que je vous recommande, qui sont très bien, Maurice Ray, une bonne sagesse. Vous voyez, mon père, il n'a pas eu la chance de vraiment entendre l'évangile. Parce que Maurice Ray, tout bon pasteur qu'il était, c'était qu'un pasteur protestant qui n'insistait pas sur le salut par la grâce. C'était des bons conseils pour les couples, à la radio, vous voyez, c'était des trucs gna gna gna. Mais mon père n'a jamais entendu parler du salut, jamais. Moi j'ai fait mon catéchisme dans l'église protestante à Cuilly, avec le brave pasteur Anchaud, mais il ne nous a jamais expliqué pourquoi Jésus est mort sur la croix. Je ne pouvais pas avoir accès au salut en écoutant ces radotages de catéchisme à la noix de coco. C'est impossible quand je regarde les notes du catéchisme, mais c'était n'importe quoi. C'était pas l'évangile vraiment vrai. Donc si je n'avais pas entendu l'évangile prêché par Raphaël, et si j'étais mort, heureusement il me restait une possibilité dans le séjour des morts. Gloire à Dieu, j'ai rencontré Raphaël. Mais combien de millions n'ont pas eu ce bonheur de rencontrer un serviteur de Dieu réel, rempli du Saint-Esprit, pour leur prêcher? Et puis vous avez des gens qui entendent vraiment des serviteurs de Dieu réels, qui prêchent vraiment l'évangile. Ils les suivent pendant 30 ans, puis après ils disent qu'ils sont remplis de démons. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Eh bien, heureusement que ce n'est pas moi qui vais juger tout ça à la fin. Simplement, ce que je vous dis, c'est la connaissance que j'acquiers petit à petit au travers des Saintes Écritures, des textes sacrés, avec l'aide du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Bonne fin de soirée. Au revoir, mes frères et sœurs.